Vous écoutez On lit pour vous.
Une banque pour soutenir la recherche sur le cerveau humain. Un texte commandité paru le 10 novembre 2025 dans la presse. Saviez-vous que c'est au Québec que se trouve l'une des plus grandes banques de tissus cérébraux au monde? Cette réserve appartenant à l'Institut Douglas constitue une véritable mine d'or pour la recherche sur les maladies du cerveau. Depuis sa création, elle a permis un nombre considérable de découvertes sur cet organe encore méconnu, qui est de loin le plus complexe du corps humain. Une banque unique en son genre. La Banque de cerveau Douglas, qui a été fondée en 1980, est non seulement l'une des plus anciennes réserves de tissus cérébraux au monde, mais elle est en outre l'une des plus importantes, souligne Naguib Mekavar, directeur de la Banque de cerveau Douglas et professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill. La banque en question compte aujourd'hui plus de 3 700 spécimens. La banque se distingue également par le fait qu'elle est l'une des rares à offrir un éventail aussi large d'échantillons qui couvre la plupart des maladies cérébrales, ajoute le spécialiste. Elle comprend des cerveaux post-mortem de personnes qui souffrent de désordres neurodégénératifs comme l'Alzheimer et le Parkinson, ainsi que d'individus atteints de désordres mentaux tels que la dépression majeure, la schizophrénie et le trouble bipolaire. Une réserve précieuse pour la science. Les échantillons de la Banque de cerveau Douglas sont utilisés pour de nombreux projets de recherche. L'étude des tissus cérébraux se révèle en effet essentielle pour approfondir les connaissances sur cet organe et faire progresser la science. Certes, des modèles in vitro et animaux existent, mais il n'y a rien comme étudier le cerveau d'une personne malade pour mieux comprendre les troubles neurodégénératifs et psychiatriques, assure le Dr Mekavar. L'accès direct à des échantillons permet donc aux chercheurs et aux chercheuses d'analyser les cellules, les protéines et les gènes qui peuvent être impliqués dans les maladies cérébrales. Ces recherches sont susceptibles de mener à des avancées scientifiques sur les causes, le dépistage, les traitements et la prévention des désordres neurodégénératifs et psychiatriques. Des partenariats qui portent leurs fruits. Auparavant, l'acquisition de cerveaux post-mortem pour la recherche s'effectuait par le biais d'un programme général de dons. Cependant, au cours de la dernière décennie, la Banque de cerveau Douglas a établi des alliances avec des responsables d'études cliniques menées en milieu universitaire, portant sur des maladies cérébrales, telles que l'Alzheimer, le Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique. Ces partenariats permettent non seulement d'obtenir des cerveaux dans les meilleures conditions possibles, mais aussi de disposer d'une quantité considérable de données, comme des numérisations cérébrales, des tests cognitifs et des analyses sanguines, recueillies du vivant des participants, explique le directeur de la banque. Ces informations s'avèrent très précieuses en recherche, car plus les scientifiques ont des données précises sur la personne malade, plus ils peuvent faire de la recherche de pointe sur le cerveau, souligne Naguib Mekavar. La banque, grâce aux efforts soutenus de son co-directeur, le Dr Gustavo Turecki, collabore également avec le bureau du coroner pour accompagner les familles endeuillées, dont un proche atteint de maladie mentale est décédé par suicide. Si elles le souhaitent, les familles peuvent faire don du cerveau de leurs proches pour contribuer à l'avancement de la science, poursuit Naguib Mekavar. Les recherches réalisées à partir de ces tissus cérébraux peuvent permettre de mieux comprendre la biologie des maladies mentales en vue de l'élaboration éventuelle de programmes d'intervention et de prévention. D'innombrables percées scientifiques. Depuis sa création, la Banque de cerveau Douglas offre gratuitement des échantillons à la communauté scientifique locale, nationale et internationale. Chaque année, plus de 2000 échantillons de tissus cérébraux sont distribués à des chercheurs qui étudient les maladies du cerveau dans des laboratoires de pointe partout dans le monde, indique avec fierté le directeur de la banque. Grâce à ces spécimens, de nombreuses découvertes scientifiques sur différentes maladies neurodégénératives et psychiatriques ont été réalisées au cours des dernières décennies et publiées dans des revues scientifiques renommées. Le Dr Jude Poirier et son équipe du Centre de recherche Douglas ont, par exemple, découvert que le gène APOE4 prédispose à la maladie d'Alzheimer, mentionne le Dr Mekavar. Plus récemment, les recherches menées au Douglas par le groupe McGill d'études sur le suicide ont permis de mieux comprendre les substrats biologiques de la dépression et du suicide. C'était « Une banque pour soutenir la recherche sur le cerveau humain », un texte commandité paru le 10 novembre 2025 dans la presse.
Un nationalisme lucide et ouvert. Un texte de Pauline Marois, paru le 20 novembre 2025 dans Le Devoir. Allocution de Pauline Marois du mercredi 19 novembre 2025 à la Grande Bibliothèque. C'est avec une émotion profonde que je prends la parole. En vous regardant, je reconnais des visages, des complices de longue date, des personnes avec qui j'ai partagé des années intenses au service du Québec. Beaucoup d'entre nous ont vécu de près l'aventure politique avec René Lévesque. Comme moi et toutes celles et tous ceux qui sont ici, nous continuons de croire que nous formons une nation et que les Québécoises et les Québécois doivent être les maîtres de leur avenir. Nous sommes réunis par un même fil, l'héritage d'un homme et l'espérance d'un peuple. Cet héritage n'appartient pas seulement à celles et ceux qui l'ont connu, mais à toutes les générations de Québécoises et de Québécois. Il a été admiré parce qu'il a su, avec des mots justes et une vision claire, nommer ce que nous étions, ce que nous voulions devenir et ce que nous avions le devoir de transmettre. Quand René Lévesque regardait le passé, c'était pour comprendre le présent et anticiper l'avenir. Il affirmait « Être nous-mêmes, c'est maintenir et développer une personnalité qui dure depuis 3 siècles et demi. » Quand il évoquait la langue française comme cœur de notre identité, il ne faisait pas seulement un constat. Il lançait un appel à la responsabilité collective. Parce qu'une langue n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle doit être vécue, parlée, aimée, défendue. Elle est notre manière singulière de voir le monde. Je me souviens encore de mes premières années à l'école, dans ce village de Saint-Étienne-de-Lauzon. La langue française, c'était à la fois la porte d'entrée dans la connaissance et un refuge familier. Vous savez, sans mémoire, nous perdons notre avenir. Mais sans avenir, la mémoire s'éteint. Le thème de ce rendez-vous, « Comment faire nation au XXIe siècle », nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que l'existence des nations a encore un sens? Nous savons que la mondialisation, les mouvements migratoires, la diversification culturelle et religieuse, l'incertitude économique et politique, mais aussi des bouleversements technologiques fulgurants, transforment nos sociétés. Nous savons aussi que, partout en Occident, l'idée même de nation est contestée par certains courants intellectuels ou politiques qui privilégient une citoyenneté sans ancrage culturel. Mais le projet politique que portait René Lévesque n'était ni l'un ni l'autre. Son action était fondée sur un nationalisme de dignité envers soi-même, de progrès démocratique et d'ouverture à l'autre. Il croyait qu'on pouvait conjuguer fierté et inclusion, enracinement et accueil. Il croyait qu'affirmer notre nation, c'était affirmer en même temps l'égalité de tous ses citoyens, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. C'est ce nationalisme-là qui est au cœur du projet québécois. Un nationalisme qui donne confiance en ce que nous sommes, qui rassemble autour d'un projet, qui construit l'avenir. Est-ce que cette vision est encore réaliste aujourd'hui? Soyons lucides. Nous vivons à une époque de polarisation. D'un côté, certains voudraient déconstruire l'idée même de nation, au nom d'une idéologie où toute identité collective serait suspecte. De l'autre, certains cherchent à figer la nation dans une définition étroite, exclusive, qui nie la diversité de notre réalité contemporaine. Entre ces deux impasses, il y a notre chemin, le seul qui me semble fréquentable. celui d'un nationalisme lucide et ouvert qui conjugue la fierté de nos racines et l'accueil de nouveaux visages. Ce chemin est exigeant. Il exige de répéter encore et toujours que l'identité québécoise ne se réduit pas à une essence immuable, mais qu'elle est une construction vivante, nourrie de l'histoire et ouverte à l'avenir. René Lévesque disait « Chaque Québécois est et doit demeurer un citoyen à part entière. » Cette phrase à elle seule balise notre route. Elle nous rappelle qu'assumer notre destin collectif, ce n'est pas dresser des murs, mais bâtir ensemble sur un socle commun. Cette vision d'un nationalisme d'ouverture doit aussi guider notre réflexion sur les grands enjeux contemporains, notamment celui de l'immigration. Cette conception ouverte de la nation s'éprouve d'abord dans notre manière d'accueillir celles et ceux qui choisissent le Québec. Il est dans l'air du temps de discuter d'immigration. Je voudrais que notre discours soit rassembleur. Mais cela ne doit pas nous conduire à abandonner nos responsabilités, à nier les problèmes. Dans le débat politique, les tensions ne sont pas anormales. C'est le temps qui nous permet de nous unir. L'extrême polarisation lors des débats entourant la loi 101 de Camille Lorrain en est le plus bel exemple. La loi 21 sur la laïcité, qu'on l'approuve ou non, en traçant un équilibre entre liberté de conscience et neutralité de l'État, a contribué à apaiser un débat qui devenait de plus en plus malsain et divisait profondément la société québécoise. Je dis oui aux discussions sur l'immigration, comme sur tous les sujets, mais respectons les personnes. N'oublions jamais qu'aucun immigrant n'est responsable de nos politiques d'immigration. Ce sont nos gouvernements et nos élus qui les ont définis. Ce sont eux qui doivent porter la responsabilité des conséquences de nos choix collectifs. Et n'oublions pas non plus qu'une fois qu'une personne s'intègre à notre société, elle cesse d'être une immigrante. Elle devient une citoyenne ou un citoyen à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités que tous les autres. Enfin, souvenons-nous que lorsqu'on change de politique, il faut respecter celles et ceux qui, de bonne foi, ont suivi toutes les règles qui leur étaient imposées. C'est là une exigence de justice et de respect, sans laquelle aucune société ne peut avancer sereinement. Il n'est pas anodin que ce rendez-vous mette en dialogue le Québec et la France. Nos deux nations partagent un même défi. Comment préserver un socle de valeurs communes, égalité entre les femmes et les hommes, solidarité, démocratie, laïcité, dans des sociétés de plus en plus diversifiées? Nous avons en commun cette conviction que les nations ne doivent pas disparaître dans la mondialisation. La nation offre à chaque femme et chaque homme un espace de solidarité essentiel qui permet de partager un art de vivre ensemble. Le Québec, nation francophone en Amérique, et la France, grande nation européenne, savent chacun que leur avenir dépend de leur capacité à conjuguer fidélité et innovation. Derrière les idées et les projets collectifs, il y a toujours des parcours humains. Au moment où je suis devenu député, René Lévesque m'a tendu la main. Il m'a appris qu'on pouvait rêver sans perdre le sens du réel. Il m'a surtout appris qu'aimer son peuple, c'est l'aimer avec lucidité, sans flatterie, sans illusion, mais avec une intégrité sans faille. Ces expériences ont nourri ma conviction que faire nation, c'est d'abord un engagement humain ancré dans la solidarité et la transmission. À mon tour, j'ai eu le privilège de transmettre ces valeurs à mes enfants, à mes collègues, à mes concitoyens. Et je mesure aujourd'hui à quel point Chaque génération a ce même devoir. Prendre le relais, porter le flambeau et le tendre à celles et ceux qui viennent après. Alors, comment faire nation au 21e siècle? En refusant le cynisme. En refusant l'effacement. En refusant aussi les exclusions. En affirmant que notre langue, notre culture, nos institutions sont des biens communs à partager, à protéger et à transmettre. Et en disant à toutes celles et à tous ceux qui choisissent le Québec, « Voici notre maison. Entrez. Sentez-vous chez vous. Faites la vôtre. Et en retour, dans le respect de ce que nous sommes, contribuez à la faire grandir. Car nous avons besoin de vos talents, de vos voix, de vos espérances. Le Québec ne demande pas la permission d'exister. Il existe. Il agit. Il veut continuer à apporter sa part au destin commun. Faire nation, c'est se souvenir de notre passé, mais c'est surtout croire que notre avenir est encore à écrire. C'est transmettre aux jeunes générations l'audace d'imaginer, la liberté de choisir, la fierté d'appartenir. Chers amis, le peuple québécois a connu des épreuves, des défaites, mais aussi de grandes victoires. Nous avons bâti un État moderne, une société plus juste, des institutions qui nous ressemblent. Rien de tout cela n'était acquis d'avance. Il faut renouer le fil fragile qui unit nos ancêtres à nos enfants. Il faut tisser des liens entre les Québécoises et les Québécois et celles et ceux qui, de génération en génération, sont venus partager notre maison. Il faut le dire, il faut le redire. Le Québec est une nation vivante, ouverte, solidaire. Je n'ai jamais regretté d'avoir cru au peuple québécois. Jamais. Ce soir, en ouvrant ce rendez-vous, je vous invite à raviver cette foi, à regarder l'avenir avec lucidité et confiance. Je vous invite à dire aux héritières et aux héritiers de ce rêve, c'est votre tour. Dans ce siècle encore jeune, à vous de faire vivre le Québec à votre manière, avec vos valeurs. Et sachez que, de notre côté, celui des générations qui vous précèdent, nous serons là pour vous soutenir, avec confiance et affection. C'était un nationalisme lucide et ouvert, un texte de Pauline Marois, paru le 20 novembre 2025 dans Le Devoir.
Payer un céleri en quatre versements, un texte d'Alex Fontaine, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir. PayPal a lancé cette semaine un programme « Achetez maintenant, payez plus tard » au Canada. Rejoignons un nombre grandissant d'entreprises qui offrent de payer en plusieurs versements des biens de consommation courante. Payer un burger sur 6 semaines n'est toutefois pas sans risque. Le paiement échelonné n'est pas nouveau, rappelle Philippe Dastous, directeur du laboratoire en éducation financière de HEC Montréal. On peut penser aux meubles et aux électroménagers, où ce genre de modalité de paiement est courant depuis longtemps. On sait que ça encourage les gens à consommer plus. Ce qui est inédit, c'est plutôt l'accessibilité à ces programmes et leur utilisation pour des transactions du quotidien, explique-t-il. Les consommateurs auront vite fait de repérer les logos de Sezzle, d'Afterpay et autres Affirm de ce monde au moment de faire une transaction en ligne. En quelques clics, vous pouvez payer un produit en 4 versements. Ça va vite, note Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. On a juste à cliquer, le temps pour la réflexion, il n'est pas très très long. Les fournisseurs de services de paiement en différé ne s'en cachent pas. Ces mécanismes visent à augmenter la fréquence des achats et le montant des transactions. Chez Klarna, par exemple, on se targue d'augmenter les probabilités que l'acheteur passe à la caisse de 20%, la valeur moyenne des commandes de 40% et la fréquence d'achat de 46%. Les commerçants semblent y trouver leur compte. C'est pourquoi ils paient les plateformes pour offrir à leurs clients du crédit à court terme sans intérêt. Le programme paiement en 4 de PayPal coûte au détaillant 4,90% du montant de la transaction, plus des frais fixes de quelques sous par transaction. L'épicerie à crédit. Pour faire un usage prudent des programmes achetés maintenant, payés plus tard, il faut assurer un suivi serré des sommes dues et des échéances de remboursement, explique Mme Leblanc. Si on cumule plusieurs plans, on peut perdre la vue d'ensemble de ses finances et il peut arriver qu'on n'arrive plus à faire face à la musique, prévient-elle. Bien que certains prêts soient véritablement sans intérêt, les fournisseurs peuvent tout de même exiger des frais d'administration et des frais de retard de paiement. Il faut prendre le temps de bien comprendre les conditions d'utilisation, poursuit Joanne Leblanc. D'autant plus que certaines entreprises vont transférer des informations au dossier de crédit, d'autres non. Ces dangers ne semblent pas freiner l'ardeur des consommateurs. Des données de l'organisme Paiement Canada rapportées par le Globe and Mail montrent que 26% des Canadiens ont eu recours à un programme acheté maintenant, payé plus tard en 2025. Contracter des dettes n'est pas nécessairement négatif, note par ailleurs M. Dastous. C'est le cas notamment pour les biens durables. Personne n'est surpris de devoir emprunter pour payer une maison ou une voiture, illustre-t-il. Cela dit, il est désormais possible d'emprunter pour acheter des objets ayant une très faible valeur résiduelle. Chez Sezzle, par exemple, on peut payer ses factures Uber Eats en plusieurs versements. En ce qui concerne l'épicerie, pour moi, c'est un drapeau rouge, pense Joanne Leblanc. Sans intérêt, vraiment ? Le paiement échelonné fonctionne essentiellement de la même façon d'un fournisseur à l'autre, même si les modalités peuvent varier. Dans le cas d'un paiement en 4 versements, le client s'acquitte généralement du premier au moment de l'achat, tandis que les 3 versements suivants sont échelonnés sur 6 semaines, tout cela sans intérêt. Certains offrent aussi des formules de paiement mensuelles qui s'apparentent à du crédit traditionnel. Par exemple, Affirm propose d'étaler ses paiements sur 6 à 12 mois à un taux d'intérêt compris entre 0 et 32%. Un bien payé 2000 $ à un taux de 32% pourrait ainsi être remboursé en 12 versements de 197 $ pour un coût total de 2364 $. Les fonds utilisés pour effectuer les paiements peuvent provenir d'un compte bancaire, mais aussi d'une carte de débit ou d'une carte de crédit. Il ne faut pas se leurrer, il y a un potentiel que tu paies des charges d'intérêt sur ta carte de crédit, advenant un solde non payé à la fin du mois, prévient Philippe Dastous. C'était « Payer un céleri en 4 versements », un texte d'Alex Fontaine, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir.
Briser le cycle de la violence genrée. Un texte de Gwendoline Le Bomain, publié le 20 novembre 2025 dans l'Aurore boréale. Au Canada, une femme sur 4 subira une expérience de violence physique ou sexualisée au cours de sa vie. Au Yukon, ce taux sera 3 à 4 fois plus élevé selon les données du site End Violence Yukon. Cette violence s'intensifie lorsque l'on cumule certaines caractéristiques comme le handicap, l'orientation sexuelle ou l'origine ethnique. Par exemple, le taux d'homicide chez les femmes et les filles autochtones est près de 7 fois plus élevé que chez celles qui ne le sont pas. La violence genrée se manifeste sous diverses formes, telles que physique, sexuelle, psychologique ou économique. On la retrouve partout, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux et au sein même du foyer. Au Canada, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de violences de la part de son partenaire, un type de violence fondée sur le sexe, au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Une violence qui traverse les siècles et se retrouve dès les textes mythologiques antiques, gréco-romains et bibliques, où la femme est souvent présentée comme maléfique. À la barre des accusés, les harpies et les furies, Pandore, les déesses ou encore les Amazones et bien sûr Ève, personnage transgressif et représenté comme tentatrice. Mentionnons également la chasse aux sorcières qui a sévi en Europe entre le 15 et le 18e siècle, notamment lors des procès de Salem aux États-Unis et qui subsistent encore en Afrique comme au Sénégal, où les veuves sont régulièrement ostracisées. En somme, les exemples sont trop nombreux pour être tous cités. Mis en perspective, ces faits évoquent le mythe de Sisyphe, condamné par les dieux à pousser éternellement sa pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Pourquoi tant de violence? Cette violence perdure aujourd'hui pour de multiples raisons. Elle s'enracine dans des structures de pouvoirs anciennes et des normes sociales encore vivantes, soutenues par des systèmes qui peinent à protéger les victimes et à responsabiliser les agresseurs. face à la normalisation de la violence, il est essentiel de la nommer. Par exemple, l'expression « culture du viol » a été remise en avant par le mouvement international MeToo. Elle désigne les comportements qui banalisent, excusent ou justifient les agressions sexuelles ou qui les transforment en plaisanterie et en divertissement. Il est également crucial de parler et de diffuser le concept de consentement. Le mois dernier, la France a intégré la notion de consentement à la définition du viol dans le Code pénal, rejoignant ainsi des pays comme le Canada, ayant déjà réformé leur législation en ce sens. Alors, que faire? Comment ne pas ressentir de la colère face à ces injustices, de l'indignation ou de la lassitude, et vouloir dire « OK, c'est assez ». Militer, batailler, encore et encore. On se rebelle, on ne se laisse pas faire et on le dénonce. De nombreux mouvements existent à travers le monde, comme le fameux mouvement MeToo ou le mouvement 4B en Corée du Sud, pour dire quatre fois non aux hommes, non aux rencontres amoureuses, non au sexe, non au mariage et non à élever des enfants. Se rassembler, parler de ses expériences, les partager, se retrouver peut-être dans les paroles des autres, appréhender son corps, se rappeler qu'il nous appartient et que nous en sommes aussi responsables. L'aimer aussi. Le 15 novembre dernier, plus d'un millier de personnes, des hommes, des femmes, des plus jeunes et des plus âgés, se sont réunis sur le sentier Millennium pour exprimer leur soutien aux deux femmes agressées cet automne à Whitehorse. Cet événement illustre la solidarité et prouve qu'à plusieurs, on est plus fort, plus forte. Faire des choix, décider de rejoindre un groupe féministe ou un mouvement, adopter son propre style de vie, même lorsque se libérer des pressions sociales et des comportements inculqués depuis l'enfance n'est pas toujours facile. Choisir le calme aussi, la paix intérieure face à ces violences. Calmer toutes ces voix, ces opinions balancées en rafale à ces sirènes. S'opposer au chaos. Le calme face à l'agitation, à la clameur permanente. Le calme comme une forme de résistance. Finalement, mettre fin à la violence genrée demande du temps et nécessite l'engagement de toutes et de tous au sein de la société. C'était « Briser le cycle de la violence genrée », un texte de Gwendoline Le Beaumain, publié le 20 novembre 2025 dans l'Aurore boréale.